soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin, Albert Algou, Frédéric Sigrist et Guillermo. Oui, sans oublier Tanguy Pochereau tout à l'heure. Et notre invité est Muriel Robin. Bonjour Muriel.
Ouais. Oui, oui, oui.
On va les calmer. On va les calmer, on va les
entraîner la foule, le peuple.
Muriel qui porte à bout de bras
et à bout de cœur.
Ouais, à bout de cœur. Lundi 1er octobre à 21h sur TF1, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. L'enjeu ce sont les femmes battues, l'enjeu c'est le regard de la société sur les femmes battues. Pour Jacqueline Sauvage, on a l'impression d'avoir vécu et de tout connaître de cette histoire. C'est ce que, en tout cas, je croyais, comme une espèce de citoyen qui lit la presse, qui a vu ce qui s'est passé, qui se dit bon, allez, je connais l'affaire, je vais regarder le film. Et alors, ça m'a chopé à un point où d'abord, j'ai découvert des choses que j'ignorais totalement. Alors, sûrement, je n'avais pas tout lu dans la presse, ou alors peut-être que
comme
la presse n'avait pas tout raconté.
On n'est pas obligé de connaître le truc.
Les propos rapportés, ce qui se passe au tribunal, c'est bouleversant. Et puis, pardon, l'interprétation de Muriel Robin, Olivier Marchal,
et magistral,
qui est
courageux d'avoir accepté,
qui est le vrai, qui est le vrai salaud, mais en même temps,
il a des prédispositions, Marchal.
Je ne réponds rien.
C'est pire. c'est et Alix Poisson en avocate, enfin vraiment
ils sont tous bien au niveau du jeu,
absolument,
vraiment top.
Absolument, et la réalisation aussi. on va en parler, mais d'abord, on va savoir si cette bande autour de vous, Muriel, est-ce qu'ils vous connaissent bien ou pas. Question, vous ne dites rien, vous les écoutez, vous me direz après si c'est vrai ou faux. Que fait Muriel Robin des scénarii qu'elle reçoit?
Elle brûle. Quand j'en reçois.
Elle les conserve. Elle les archive.
Non.
Elle les
revend.
Elle s'en sert en brouillon.
Moi j'attends.
Elle fait des brouillons à recycler.
Exactement. Vous les recyclez en bloc-notes.
Mais j'en reçois tellement peu, pardon. J'ai pas beaucoup de brouillons. Hein. Franchement, excusez-moi, je suis obligé de dire la vérité. Si j'avais eu que ça comme brouillon, j'aurais été drôlement emmerdé.
En tout cas, vous n'y jetez pas.
J'essaie. On essaie tous de recycler.
Non, ça jette écolo.
Et parfois, je jette aussi. Dans la poubelle et je dis tant pis. Oh, n'en parle plus.
Pour quelle marque Muriel Robin a-t-elle refusé une fortune pour faire la publicité?
Coca-Cola.
Oui, non. Marque de
Nike,
lunettes.
Pepsi.
Non.
Oasis.
Non, c'est plutôt quelque chose qui se mange.
Alimentaire, ouais, c'est
Nutella.
Ça. Des plats cuisinés. Des plats cuisinés. Je fais des conserves, du chocolat, du vin.
Surimi.
Non, fais pas de pub, pourquoi?
On est sur un duel là, non, oui. On sent qu'ils sont à fond.
Ah, oui. Produits alimentaires.
La choucroute.
Alors, on
s'en cassoulet,
de viande.
L'agneau.
Charal,
de
veau.
L'anguillette. Charal.
La
saucisse. Non?
Ouais, qui a dit ça?
La saucisse.
Justin Bridoux.
Ouais.
Vous avez refusé une. C'était quoi l'image qui était.
Je ne vais pas la dire, la somme, parce que je pense que beaucoup de gens vont penser que c'est.
Indécent, ouais. Non, mais peu importe, une somme.
Énorme. C'est-à-dire que je me voyais. Enfin, pas longtemps, parce que je
arrêtez
pouvais...
Arrêtez de bosser, quoi.
Mais vraiment énorme. Mais qu'est-ce qui m'a... C'est que l'idée qu'on me fasse toute la vie dans la rue... Justin Bridoux. Alors je me dis, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ce que vous voulez.
C'est pour ça qu'il donne beaucoup d'argent.
L'argent n'achète pas tout. C'est pas possible. Je me suis dit, mais ma vie va être foutue, quoi. Déjà que j'avais le théâtre de Bouvard qui me collait aux pattes. On me disait, faut pas dire que t'as fait le théâtre de Bouvard parce que sinon tu feras rien dans le métier. Bon, moi je mettais le théâtre de Bouvard en haut de mon CV.
Mais Antoine,
Justin Bridoux avec une petite photo de saucisson à côté.
Antoine avoue que les gens le croisent, Antoine, en disant Atoll, ouais, c'est ça.
Non, mais Atoll, c'est Atoll. Justin Bridoux, c'est pas tout à fait Atoll.
C'est pas Cochonou non plus, quoi.
Non, mais c'est Justin Bridoux quand même. C'est même pas Justine Bridoux. Justin Bridoux.
Puisque vous parlez du théâtre de Bouvard, Muriel Robin n'était pas toujours en très bon terme avec Philippe Bouvard, ça, on le sait.
Au début, il fallait se le mettre dans la poche.
Pourtant, ce dernier va lui offrir un beau cadeau. Lequel?
Un appartement.
Un beau cadeau.
Ouais, un beau cadeau.
C'est le lien avec le spectacle, avec une première scène.
Exactement.
Je suis incontournable.
La première pièce qu'il ait écrite, il vous propose le premier
c'était
rôle.
C'était sa deuxième pièce.
Ah, pardon.
Ouais.
Je pensais que c'était la
première.
C'est pour ça que j'ai pas trouvé.
La première a fait passer inaperçue. Pardon, Philippe.
Je pensais que c'était la seule et unique qu'il ait faite.
Non.
D'accord.
Non,
c'était Double Foyer.
Exact. Qui était avec Régis Laspalès et Marcel Philippot, qui nous a quittés. Voilà, Potinière, oui.
Donc ça pour vous c'est le signe d'un vrai beau cadeau quand on vous offre un premier rôle pour une pièce, c'est un...
Oui.
C'est généreux, d'accord.
C'est généreux, oui, bien sûr, c'est généreux. Sur c'est les... dit que ça va ouais. peut-être amener des choses et que... Et puis enfin...
De toute et façon, la prise de bec au début, c'était sur quoi alors?
Non, c'est pas la prise de bec, c'est que Philippe Bouvard, c'est quelqu'un de dur, mais moi j'ai été élevée, j'étais dure chez moi, donc j'étais un peu dans mon bain, quoi. Et mais bon, il me disait pas mon prénom, il disait à ceux qui étaient là et celles qui étaient là plus longtemps.
Il sait être extrêmement désagréable.
Et il était cassant, pam.
Et pas qu'avec les femmes, mais enfin, en l'occurrence...
Pas que, mais quand même. Et puis un jour, il a senti que c'était le coup de trop, et j'ai entendu Muriel. Voilà, donc je me suis dit, ça y est, il a plié. Mais moi, c'est le bras de fer, comme ça je me suis dit, je vais le plier. Voilà, je serai patiente, il n'y a pas de souci. Et finalement, après, j'ai vu qu'il avait eu un petit coup de cœur pour moi, puisqu'il m'a proposé cette pièce.
Sur les marchés que Muriel Robin a beaucoup fréquentés avec ses parents, quel rôle jouait sa maman? Sa maman jouait un rôle.
L'acheteuse.
La cliente.
Exactement, exactement. Je trouve ça génial comme idée. C'est-à-dire que...
C'est le principe, ce qu'on appelle, ça a un nom, faire le baron, je crois que ça porte ce nom-là. Ouais, ouais. Et moi, quand j'étais gamine, alors, nous, mes parents n'étaient pas ce qu'on appelle posticheurs. Mais les vrais posticheurs, ceux qui vendent le machin, regardez, ça découpe, ça machin, etc. Ils viennent avec leur femme et moi, enfant, je les voyais ensemble. Et après, je la voyais. Elle, jouer de l'autre côté, donc c'était du théâtre, quoi. Ouais. Et j'avais un mal fou à me dire, mais c'est sa femme, enfin j'y croyais. C'était très bizarre, quoi. Et maman, de temps en temps, quand ça bordait pas, se mettait... Non, elles sont bien ces chaussures.
Et ça marchait. Mais, ça attire le chapeau.
Ça attire le chapeau.
Évidemment. Que fait Muriel Robin, encore, j'espère, tout là, trois fois par semaine?
Du sport.
Du sport, oui.
Et sur trois fois par semaine. Points,
et intensif, hein, course, marche, muscu.
Oui, oui, quand j'en fais, c'est trois fois par semaine. Là, évidemment, quand on est très occupé, ça saute, ce qui ne devrait pas être le cas, mais je ne me sentais pas, par exemple, hier matin où j'avais une émission à 7h30, de mettre mon réveil à 5h pour faire mon sport. Et je ne m'en suis pas voulu, je dirais. Je ne me suis pas... mais quand j'en fais, oui, bah, du sport, quoi. Alors, c'est vrai que j'ai fumé pendant 40 ans.
Wow.
J'ai arrêté de fumer depuis 10 ans. Là, j'ai un peu repris parce que...
Mais pourquoi?
Parce qu'il y a des soucis, parce que il y a des choses un peu compliquées à vivre. Donc j'essaye de me remuscler le cœur et ça marche parce que tout d'un coup, on voit avec les appareils d'aujourd'hui, etc., que je gagne en capacité respiratoire.
Mais avec la force de caractère que vous avez, Muriel, pourquoi vous reprenez la clope?
Mais parce qu'avec la force de caractère que j'ai, je vais la arrêter. Et je vais même vous dire à quelle date, c'est le 3 octobre. Okay. Voilà. C'est très clair, très précis.
La date importante, c'est
si vous me voyez fumer dans la rue, après le 3 octobre,
on peut vous dire juste
un
punition.
Bon vu que c'est juste un vélo.
Alors, la date aussi à retenir, c'est ce lundi. Lundi 1er octobre à 21h sur TF1, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, avec donc Muriel Robin, Olivier Marchal, Alix Poisson, Armel Deutsch, Samantha Régnier, Laura Sépul, Eric Assinthe, Clément Manuel, Yves Régnier, qui réalise également ce film, qui fait aussi la voix off qui clôt l'histoire et qui joue le rôle du directeur de prison. D'ailleurs, quelque chose qui m'a aussi frappé dans cette histoire lorsque... Dès le début du film, puisque c'est vraiment tout ce qui se passe à partir du moment où Jacqueline Sauvage tue son mari jusqu'à la décision de François Hollande, président de la République, c'est vraiment cette histoire-là que l'on suit. Ça a été la manière dont la prison et le personnel de la prison et le directeur accueillent Jacqueline Sauvage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de « Madame, je vous en prie, asseyez-vous ».
Oui, il faut attention à elle.
Exactement, il y a une espèce de compassion. C'est pas une meurtrière qu'on accueille. De la part des gens, entre guillemets, normaux, je parle pas des juges qui vont arriver après, mais de la part des gens normaux, il y a beaucoup de compassion.
D'autant qu'ils savent qu'elle a perdu son fils.
C'est ça, parce que c'est ça aussi qu'on revient.
C'est quand même ça qui s'ajoute, c'est-à-dire que la vie de Jacqueline, en vrai, est complètement cinématographique, quoi. Elle tue son mari, et elle apprend après, dans la réalité, en garde à vue, nous on l'a fait dans la prison, que son fils s'est suicidé.
La veille de l'assassinat.
Ouais.
Elle apprend plusieurs jours après.
Quelques jours. D'accord. Très peu.
Donc lui, il se suicide pour ce qu'il est en train de vivre dans sa vie et pas parce que sa mère a tué le père.
Pas du tout.
Père.
Il se suicide à cause du père. Il y a un mort.
Et de l'engueulade que l'on découvre derrière. Mais il ne laisse aucune lettre et on ne sait pas pourquoi.
Enfin, elle savait très bien qu'il était quand même très maltraité, ce garçon, très abaissé, maltraité physiquement et psychologiquement. Donc, il avait d'ailleurs, je crois, reproduit un peu le schéma de son père. Ouais. Et c'est quelque chose qu'il vivait mal, donc il n'arrivait pas à trouver sa place. Il voulait retrouver la femme avec qui il était précédemment, qu'il ne voulait pas. Enfin, c'était et puis très, très abaissé par le père. C'est le père qui l'a tué. C'est le père. Et Jacqueline, ce qui est le triste, évidemment, c'est que Jacqueline, je pense, se dira toute sa vie, si j'avais tué deux jours plus tôt Norbert, peut-être que mon fils serait encore là. Et que aujourd'hui,
parce que
pour
c'est
avoir...
pour ça, c'est pour ça qu'elle a tué son mari, pour protéger ses enfants avant tout.
Exact, c'est ce qu'elle a dit tout le temps. Ouais. C'est ce qu'elle a dit tout le temps. Ce qu'elle dit souvent, d'ailleurs, parce que depuis la pétition, je lis, il y a beaucoup de... Voilà, elle préfère s'en prendre tant que c'est elle. Ce ne sont pas les enfants. Mais Jacqueline, qui a vécu, quand je la rencontre et que je lui dis, tu as l'image du quand tu tires beaucoup devant les yeux, parce qu'elle est toujours dans la maison où ça a eu lieu, parce qu'une maison comme ça, c'est très difficile de la vendre, évidemment.
Ça doit être et elle me dit non, vivre,
parce que il y a évidemment pas d'hiérarchie d'entre cet acte et la mort d'un enfant, mais quand même, c'est son fils qu'elle a devant les yeux, quoi.
Vous avez beaucoup parlé avec elle pour préparer le rôle?
Pas pour préparer. Je suis allée la voir 4-5 mois. C'est pas un biopic, donc j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps. Moi, ma Bible, c'était le scénario. Mais je suis allée la voir pour la prendre dans mes bras. Parce que pour lui dire, allez, on continue, il y a eu la pétition, la grâce, mais il y aura un téléfilm, sans savoir ce que ça allait provoquer. Mais bon, on est là, quoi. Ces 47 ans d'horreur vont peut-être servir à quelque chose. C'est tombé sur elle, voilà, c'était celle de trop, c'était celle tout d'un coup, pouf, ça y est, elle devient, et le film devient un plaidoyer, c'est plus un téléfilm
non,
l'audience, c'est pas ça, c'est que, regardez-le pour vous,
c'est une leçon, oui.
Mais bien sûr, et puis pour ces femmes.
C'est une leçon, et on a l'impression que ce n'est pas que Jacqueline Sauvage, justement, qui, c'est un cas, mais il y a d'autres femmes qui pendant des années subissent, et les phrases qui sont dites d'ailleurs par Jacqueline Sauvage.
Et qui ne sont plus là.
150 cadavres par an.
C'est ça, c'est aussi ça.
Femmes et hommes. 30 hommes, dont certains meurent parce qu'ils battaient et qu'ils ne sont tués pas. Donc là, c'est la violence qui fait qu'ils finalement se retournent contre eux.
Et tous les ans, il y a 150 morts à cause de violences conjugales.
Tous les trois jours. Ouais. Et un abandon total de ces femmes. Un abandon total. Il y a tout à faire. Et c'est possible. En Espagne, ils ont avancé. Au Canada, ils ont travaillé sur la loi. Et Nathalie, l'avocate qui va nous rejoindre, nous en parlera sur la loi de la légitime défense, qu'évidemment, il faut revisiter. Parce qu'il ne faut pas donner le droit de tuer aux victimes comme ça.
C'est ce que dit le personnage d'Alix Poisson, oui. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi faire changer la loi sur la légitime défense.
Mais il faut absolument...
mais l'une... Enfin, il y a tellement de phrases qui sont marquantes. Mais c'est vrai que l'une des phrases qui est dite, c'est le fait que Jacqueline Sauvage pense que c'était un comportement normal, parce qu'elle a vu son père frapper sa mère, et parce que comme son mari l'a frappé tous les jours, elle dit bah c'est comme ça que font les hommes.
Donc mais je crois qu'on peut tous comprendre ça. Je crois que tous on a quelque chose de nous où on se dit tiens là je reproduis un peu maman, un schéma, je reproduis, ça nous plaît ou ça nous plaît pas, mais en tout cas on se voit reproduire. Moi ça n'a rien à voir, rien n'aura à voir avec le cas de Jacqueline et des femmes qui sont dans le même cas. Moi, chez moi, on ne se touchait pas, on ne s'embrassait pas. Ma chérie, je ne l'ai jamais entendue, ma puce, etc. Ça n'existait pas. Et je pensais que c'était ça. Et c'est à 14 ans, 15 ans, quand je suis allée dans la famille de ma meilleure amie de l'école à ce moment-là...
Que vous entendez un « je t'aime ».
J'entends « ma chérie, tu me passes le... » Je t'entends des mots, je m'assois, je regarde un peu la télé avec eux, alors l'image, je l'ai intacte. Je m'assois par terre contre le fauteuil sur lequel est assise la maman Simone de mon amie, et elle me caresse les cheveux. Je sens que j'ai un rouge aux joues qui monte, ça me brûle partout le corps, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'aime, je trouve ça formidable. Donc c'était une langue que je devais apprendre. Et que j'ai apprise, mais ça a mis du temps. Et après, quand je rentrais de Paris, que je revenais à Saint-Étienne, je disais, bonjour, on s'embrasse. Quand on s'embrassait, on aurait dit des bouts de carton qui s'embrassaient. Je peux vous dire des coups de joue, ping, ping. On savait pas faire, quoi. Et encore aujourd'hui, avec mes sœurs, on est maladroite. Enfin, on est au bord du coup de boule quand on veut s'embrasser. Mais bon, c'est une langue. Donc, ce que vous voyez, vous le reproduisez. Et finalement, tant que vous n'allez pas ailleurs, et ces femmes-là, elles vont pas si souvent que ça ailleurs. Ailleurs, toute une journée. Bien sûr qu'elles peuvent aller manger chez des amis, etc. Mais, donc, le temps... Le luxe, Le temps est un luxe que tout le monde n'a pas. Parce que ces femmes-là, elles travaillent, enfin en tout cas si on prend Jacqueline, mais beaucoup sont dans ce cas-là, elles travaillent, elles ont des enfants, etc. On imagine que la journée commence à 7h du matin, faire la bouffe, s'occuper des enfants, machin, etc. Que la maison soit propre, bim, 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 il est 9h du soir.
Pas de vie sociale.
Ça aussi on connaît, parce qu'il faut toujours ramener à soi, dans ce qui peut ressembler, pour comprendre. Nous on a des trucs parfois aujourd'hui, oh, ça je vais, c'est un souci, ça faut que je vais dormir, je verrai demain. Et de demain en demain, en demain, en demain, en demain. C'est très... D'ailleurs, c'est dans quel pays ? Je crois que c'est en Nouvelle-Zélande, où sur, sur cette problématique, ils sortent les femmes
leur
cadre familial, et ils les envoient seules se reprendre, réfléchir. Mais ça me paraît très important, parce que tout d'un coup, elles peuvent avoir le temps, qui est encore une fois un luxe, de se dire qu'est-ce que je vis.
Mais ça, on le voit bien dans le film, parce qu'elle a quatre enfants.
Sinon, c'est une machine infernale qui
est mort. Elle a quatre enfants, elle a trois filles, un garçon. Elle est employée dans la société montée par son mari, une société de transport.
Sans salaire.
Sans salaire, mais
comme
ça
veut dire. On est sûr qu'elle ne peut pas.
Comme beaucoup de femmes, qui se retrouvent à la maison.
Elle travaille à la maison, elle coud, elle travaille, elle prépare la bouffe, elle s'occupe des enfants.
Imaginez les journées.
Et elle est presque en prison, prise par son mari. Il saisit même à un moment ses cartes de crédit,
sa pièce d'identité
pour ne pas qu'elle puisse bouger de la
parce
maison.
Parce qu'elle essaye de partir et du coup elle ne pourra pas le faire deuxième fois.
Et les témoignages des voisins aussi disent mais non, mais on ne les voyait pas, on ne sait pas ce qui se passait.
On savait, sans savoir,
mais
etc.
Personne ne parle.
Et puis c'est compliqué pour les voisins. C'est vrai que moi j'aimerais bien, je ne l'ai pas là, ce qu'il faudrait dire quand on est... parce qu'on me dit, s'il faut le dire, il faut appeler la police. Je ne suis pas sûre parce qu'il y a quand même une forme d'ingérence, on est obligé de penser aux représailles, etc. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on indique précisément à un lambda, voisin, s'il pense que il se passe ça à côté, qu'est-ce qu'il faut faire.
Mais attention,
faire.
Pardon, la surveillance des voisins, ça, c'est aussi quelque chose de très dangereux.
C'est pour ça.
Le côté voisin vigilant,
c'est très compliqué.
Il y a un petit côté milice qui m'inquiète.
Et puis, il reste encore une épreuve, c'est ensuite avoir la police. Parce que.
Alors, mais dans le film, je trouve, je trouve que la police, même le milieu carcéral, la manière dont c'est décrit, la manière dont c'est filmé, est plutôt positif, à l'écoute. Il y a pas de maltraitance, il y a pas de mépris de la part.
Dans le film,
parce
qu'on est dans.
Mais elle va pas porter plainte. Attention, là, on vient l'arrêter parce qu'elle a tué son mari.
Tout ce que je veux, là où il faut que ça change, c'est-à-dire que une personne qui se retrouve dans cette situation, il faut pour moi que, et pour elle surtout, que au moment du dépôt de plainte, il y ait l'assurance d'une prise en charge totale, c'est-à-dire que tout doit se mettre en place. La réception, déjà, apprendre. Il y a une association qui a réfléchi qu'il fallait 4 jours pour former quelqu'un. Avec des vidéos, des jeux de rôle, pour des choses interdites à dire. Il y a 2 jours, encore, une femme est allée au commissariat. Je le sais parce que Eva Darlan m'en a parlé, elle la connaît, elle a pu l'aider, parce que son mari l'avait frappée. Elle s'entend dire, oui, mais enfin, c'est pas grand-chose si on prend des plaintes pour ça, chaque fois qu'il y a... C'est pas possible. Mais les pauvres vieux, ils font comme ils peuvent. Donc, il faut une formation, et tout de suite, il faut que tout se mette en place. La protection, l'hébergement, la protection des enfants, le soin du mari, le soin, il est une victime aussi. Moi, je m'adresse à eux aussi. Les gars, peut-être qu'ils sont pas fiers au moment où ils sont en train de s'endormir tout seuls, qu'ils sont pas fiers, donc s'ils sont pas fiers, ils s'en veulent, ça les énerve, ça va peut-être faire que le lendemain, c'est une machine, avec 3 verres d'alcool, c'est une machine infernale,
parce
mais ils sont victimes
au
départ.
C'est vrai que le personnage et la manière dont le joue extrêmement brillamment Olivier Marchal, à la fois on le déteste et à la fois on a pitié pour lui.
Et puis on comprend pourquoi elle l'aime.
Parce qu'il a, et parce qu'il y a une espèce de descente aux enfers. Et d'ailleurs, la réalisation le souligne extrêmement bien. Un verre, un regard inquiet dans vos yeux, et à chaque verre, vous voyez venir le massacre annoncé.
Effectivement, il y a ça dans le film, on voit que elle est tout le temps sur le qui-vive. On sait jamais quand ça va partir. Alcool, pas alcool. Alors alcool, évidemment. Mais elle est tout le temps avec des soubresauts parce qu'elle sait jamais quand ça va partir. Vous vous rendez compte, une vie comme ça? Et puis pensons aux enfants. Il y a des enfants. Alors là, les dommages, ils sont graves parce que ce sont des enfants qui vont reproduire ou des enfants qui vont être paumés. Enfin, c'est-à-dire que la chaîne, elle s'arrêtera jamais. Donc, encore une fois, au moment de la plainte, il faut que tout se mette en place. Donc, pour ça, il faut de l'argent. En Espagne, ils sont beaucoup plus... En Espagne, il y a des tribunaux spécialisés avec des compétences civiles et pénales. Il y a l'assistance et la protection aux victimes. Il y a l'hébergement pour la femme, pour les enfants. Il y a le soin l'agresseur. Il y a des chiffres de temps en temps. Chaque fois qu'il y a un meurtre, les médias l'écrivent en gros. C'est-à-dire que c'est un truc, ça existe.
C'est pas un fait divers,
mais
quoi,
là
c'est
où ils ont un milliard, nous avons 425 millions.
Et puis il y a le soin, vous venez de l'évoquer, le soin de ces hommes qui frappent leurs femmes. C'est-à-dire qu'on considère que ces gens-là, on peut les prendre en main et on peut faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
De toute façon,
le mal quand même.
Ce qui est inquiétant, c'est la manière dont les enfants reproduisent des schémas, même en ayant été victimes. C'est-à-dire que c'est ce qu'avait fait le fils de Jacqueline Sauvage, victime des coups de son père, lui-même commençait à reproduire ce même schéma.
Le violer, violera. Ce sont des personnes qui sont déconstruite complètement. Puis quelle image du rapport homme-femme,
c'est ça.
Comme tu as vécu Jacqueline. Elle dit, elle a vu, on reproduit. Enfin, donc à un moment, et puis il faut. La femme qui vient porter plainte, si on la laisse partir, peut-être que le lendemain elle sera morte. Comment il vit ça aussi, le mec qui dit j'ai pas pris c'est pas le personnage le plus important du dossier, mais comment il vit ça aussi, le pauvier, il a fait comme il a pu. Donc c'est
pas du gendarme qui
quand même. Madame, etc., imaginons celle dont je vous parle là, peut-être Eva Darlan peut m'appeler, me dire voilà, elle est morte. Il y a une fois une femme qui avait porté plainte, le dossier avancé, etc., peu importe les détails, mais enfin on lui dit en gros, écoutez, ou votre mari, vous chassez votre mari de chez vous, ou on met, parce qu'elle avait peur pour ses enfants, ou on met vos enfants dans un foyer. Donc elle commence à sortir la valise, elle va lui dire qu'il veut partir, mais aujourd'hui elle est dans une chaise roulante. Si vous voulez, on peut pas dire peut-être, c'est comme si on allait voir les pompiers et on leur dit, il y a quelqu'un qui fait un petit feu, là, on est dans la garrigue, donc enfin avec, bam, ça bien, tout des plats, des pains partout, des hectares. Il y a quelqu'un à côté de chez moi qui fait un petit feu. J'ai un peu peur que ça prenne partout. Écoutez, madame.
C'est un barbecue, laissez-le faire, tranquille.
On va pas se déplacer pour un petit feu, sauf là, un jour, tout brûle. Et la maison et les gens qui sont dedans. Donc on est obligé de prendre ça tout de suite au sérieux parce que c'est une question de vie ou de mort.
Il faut vraiment voir ce film parce que c'est une histoire, mais qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Et peut-être des histoires qui se passent près, sur notre palier.
Sont nos mères qui peut-être ne nous ont rien dit. Peut-être nos filles, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas sur quelle va tomber notre fille. Peut-être notre cousin, notre voisin, notre collègue de travail, notre meilleur ami. On ne sait pas. Il y en a beaucoup. Peut-être plus que les chiffres qu'on nous donne de 225 000. Il y en a peut-être plus. Moi, par exemple, pour les viols, c'est encore autre chose. Mais moi, quand on est assez nombreux et qu'il y a pas mal de femmes, je dis celles qui ont eu un problème d'agression, petit ou... Levez la main. Toujours plus de la moitié. Toujours plus de la moitié. C'est pas rien quand même.
Et là, il y a la phrase horrible, elle a été vraiment prononcée au tribunal lorsque.
C'était pire même.
Je veux pas en parler parce que, enfin, je veux pas la raconter parce que ça reste quand même une fiction avec du. Je l'ai vécu comme ça, avec du suspense, avec des révélations, avec une montée dans cette pression, y compris enfin au tribunal. Et je pense comme la majorité de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je croyais tout savoir de cette affaire Jacqueline Sauvage, ou du cas de Jacqueline Sauvage, l'affaire c'est peut-être un peu violent, et en fait j'ai appris beaucoup de choses, donc on va laisser aussi la magie de la fiction.
Si on commence à lire toutes les répliques, images, comment ça commence, et la fin.
Non mais finalement c'est pas tant, c'est pas la fin, on la connaît, mais c'est le chemin.
Fred, juste si jamais il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont victimes de violences, il y a une procédure qui existe et qui s'appelle le phare, et qui permet justement au commissariat où vous allez porter plainte d'avoir des hébergements d'urgence. Et souvent, les policiers qui accueillent les victimes ne le savent pas.
Ouais.
Donc, si jamais ça vous arrive, il y a véritablement un moyen, il y a des places réservées pour les victimes de violences conjugales, et on peut vous mettre à l'abri. On n'est pas censé repartir d'un commissariat sans
Retourner chez soi.
Mais souvent, les policiers ne le savent pas. Et donc, faut leur expliquer.
Mais en tout cas, c'est évoqué dans le film, en effet, la peur de que les coups redoublent de violence après que la plainte ait été déposée, parce qu'il y a toujours évidemment une période de latence entre le moment du dépôt de la plainte et une éventuelle condamnation.
Juste pour voir l'état des lieux quand même sur le dossier, il y a en France un seul centre d'hébergement ouvert la nuit. Un. En France. Moi, je pense que le soir, quand même, quand les enfants sont couchés, qu'on a bu 3 verres de vin... À mon avis, c'est là que ça doit se passer. Ça peut arriver le matin, évidemment, un seul en France. Donc, il est à Châtillon. Donc, si vous êtes battu, déplacez-vous sur Châtillon. J'ose
c'est
dire.
Fou, ouais,
c'est non, mais
fou.
C'est fou. Un seul en France.
Et puis surtout, faut voir le centre.
Bah, je vais le voir samedi, donc je vous en parlerai demain.
Qu'est-ce que tu entends par faut voir le centre ?
Bah parce qu'en fait, à l'intérieur même du centre, c'est un centre réservé aux femmes, mais c'est des femmes issues de plein d'horizons différents. Donc il y a des gens qui arrivent avec des problématiques de toxicomanie, d'autres qui sont grands exclus. Donc quand toi t'es victime de violence et tu te retrouves dans un centre comme ça, il y a aussi tout ça à gérer. Alors le personnel est compétent, mais des fois il y a aussi à l'intérieur même du centre des problématiques tout autres qui sont compliquées. Donc effectivement, faut plus de place.
Ça passe sur TF1, ça sera lundi. Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. Ça aurait pu avoir également comme sous-titre. Il fallait que ça s'arrête, parce que si la phrase, oui. La phrase est dite et est forte. C'est une création avec Muriel Robin, Olivier Marchal, Alix Poisson. Enfin, un casting de dingue.
Et c'est une très belle réalisation du dernier. Ouais,
et c'est un film
qui s'est vraiment filmé les non-dits et tant mieux, parce que Jacqueline Sauvage est une taiseuse. Donc il y a beaucoup de gros plans de vraiment avec du temps où on peut se mettre dans la tête de cette femme et avoir son propre ressenti.
C'est d'ailleurs ce qui lui a porté un peu préjudice, j'ai
absolument,
l'impression. C'est qu'elle est très fermée, elle a intériorisé toute cette violence depuis ses nombreuses décennies, et on a la sensation, et d'ailleurs dans l'affaire médiatique au départ, elle donnait l'impression d'être une vieille femme un peu curieuse, qui savait manier les armes, donc que tout d'un coup, la légitime défense était sans doute pas aussi claire que ça, et c'est ce qui a sans doute porté préjudice à l'instruction de son dossier.
Et je trouve qu'elle ne suscitait pas non plus physiquement, c'est bête,
c'est ça,
la compassion.
L'empathie, et elle n'a pas dit « je regrette » aussi de façon... très très direct, donc il y a
d'où
aussi
la force des nouveaux avocats qui sont arrivés, des nouvelles avocates qui sont arrivées et qui ont eu l'intelligence de lui donner ce cahier en disant écrivez, racontez ce qui s'est passé dessus, ce fameux cahier noir qui sera aussi un détonateur, parce que dans la cellule, la vie qu'elle aura avec l'autre détenu est importante. Et on voit aussi l'importance du regard des autres et de quelques phrases qui sont dites comme ça. Je te crois pas, t'es une menteuse. Et ça résonne en elle. Et c'est peut-être là aussi que l'injustice prend toute une dimension entre ce qu'elle pensait être la normalité et ce qu'elle entend de quelqu'un qui ne la connaissait pas 5 minutes avant. On va continuer d'en parler.
Est-ce que je peux faire un appel pour signer la pétition?
Ah, mais toutes les 2 minutes.
Alors, il faut aller sur change.org. Alors, slash, c'est la barre en travers. Tout le monde ne sait pas peut-être ce que c'est, slash. Sauvons-les. Vous y allez, c'est une pétition qui reprend la tribune et qui reprend en fait ce dont on vient de parler pour former les gens, demander une réflexion sur la légitime défense. Mais là, Nathalie...
Nom de famille. Tomasini,
je vais y arriver à bout d'un moment. Nous en parlera mieux. Et la protection... et l'hébergement, et le soin, etc. Donc, signer cette pétition. Je veux juste dire que la pétition, comme le rassemblement que je demande samedi à 6h, ne s'adresse pas au gouvernement. S'adresse à ses victimes. C'est un acte d'amour. C'est pour leur dire, nous sommes là, ça nous concerne, on est sœurs. Parce que les femmes et les hommes et les femmes... sur ce sujet, on peut toutes se prendre la main. Toutes, donc là, en ce moment, la solidarité, la sororité, là, elle prend vraiment son sens. Donc ça, c'est vraiment un acte d'amour pour elles, pour eux aussi, les agresseurs. Attention, ça va peut-être bouger, hein. Faites gaffe, les gars, faites gaffe. On s'occupera de vous aussi. Et aussi une force et une légitimité pour moi, quand je vais aller voir, et je souhaiterais parler au président, évidemment, parce qu'il faut aller voir le patron, quoi. À un moment, c'est important, quoi. Voilà, il faut aller voir le patron de la tribu.
D'autant que le précédent patron a eu un rôle et un poids aussi.
Absolument. Donc, le rassemblement et la pétition sont très importants pour ces femmes. Il faut leur dire. Ça sera qu'une pommade, un petit pansement sur un cœur bien abîmé, mais vous n'êtes pas seul. Ça nous parle et on va essayer ensemble de trouver, de faire en sorte que de vous sortir de cette horreur, de cet enfer.
En tout cas, je l'ai signé, cette pétition, je l'ai relayée sur Twitter, je vais continuer. Non, mais c'est vrai que c'est important. Il n'y a pas de mots, en fait, pour expliquer. Vous voyez le film et vous ne pourrez pas rester insensible. Père Albert, il faut regarder ce film, mon père.
Écoutez, mon cher Nangui.
Mon cher quoi?
À votre commande. Nangui.
Ah oui, bien sûr, Nangui.
Ça se passe là-haut.
À votre question, à votre commentaire, la facilité consisterait à répondre. Quoi qu'elle joue, quels que soient les personnages qu'elle incarne, qu'elle vienne à dialoguer avec des bonobos, des éléphants ou Michel Larocque, Muriel Robin. Coucou Muriel. elle est toujours formidable. Mais là, dans les rôles de Jacqueline Sauvage, elle est carrément bouleversante. Et je le confesse, en visionnant ce téléfilm avec mes jeunes en recherche, cette année, en plus des nouvelles fonctions, je vous en ai pas encore parlé, mon véhicule fait aussi kebab, clé minute ressemblage et cinémobile. En visionnant, disais-je, Jacqueline Sauvage s'était élevée au moins avec mes jeunes, après leur avoir fait croire pour les appâter qu'il s'agissait d'un film de baston, genre MMA, kickboxing, sans exigence sur la violence. En visionnant ce film, j'ai chialé comme un enfant de cœur. Alors, je vous avoue, Nangui, j'en bafouille, ne pas avoir compris, parce que là, je vous ai entendu, mais votre réaction avant l'émission, quand JNB, notre rédacteur-chef, vous a expliqué quel personnage Muriel Robin incarnait dans ce téléfilm, vous êtes écrié « Mais qu'est-ce qui lui prend la Robin de se complaire dans des rôles tragiques, pas drôles du tout ?» Déjà, Marie Bénard, l'empoisonneuse, elle m'a foutu le somme. J'en ai fait des cauchemars. Mais là, alors, en femme tabassée par un salopard qu'elle finit par dézinguer, ah, c'est too much. Pour moi, il n'y a qu'une Muriel Robin. C'est celle qui me fait marrer. Mais, ça c'est Jimmy. Mais, oh, grand maître du divertissement populaire et musical de qualité, Muriel Robin n'est pas venue nous faire des sketchs. Mais je m'en fous. Démerde-toi pendant l'émission pour qu'elle nous fasse marrer. Sinon, je pourrais bien répéter avec toi la scène où Olivier Marchal finit par la balancer dans l'escalier. Voilà, cher Muriel Robin, comment se prépare la bande originale. Croyez bien que j'en suis navré.
Oui.
Pour ma part, Muriel, dans la mesure où dans les films évoqués par Nangui, tu as côtoyé le mal dans ce qu'il a de plus diabolique, j'ai bien envie de t'exorciser. Vade rétro, exeat Muriel a...
Arrête, curé! Tu te débordes, tu deviens fou, tu deviens Justin Bridoux, tu perds la boule!
Oh, bonjour Jean-Ki, mon disciple, tu étais donc là?
Muriel Robin, elle n'est pas possédée, elle est comme moi. Moi, je possède rien du tout, sauf mon chien, mon casier judiciaire et mon herpès. Ça servira à rien de me rechercher. Va donc plutôt t'occuper de Nangui. Lui, il est dans le vice, il est dans le sordide, il est dans le pas beau. Alors, vas-y, curé, fais-lui sortir Satan de son corps dégueulasse qui sent tellement fort le biquette.
Oh, mais... tu as raison, Jean-Ki, mais ça prendrait beaucoup trop de temps.
C'est vrai, on n'a pas le temps.
Bonne émission.
Merci beaucoup. Précision importante, le rassemblement dont vous parlez, Muriel Robin, samedi, ça sera le 6 octobre que ce rassemblement sera fait.
À 14h.
À 14h,
à Paris,
au Palais du Cid.
Du Cid de Paris, celui de Paris. Et en province, si vous voulez initier, pour être nombreuses, pour leur dire on est là, vous, l'autorisation est facile à demander, elle est toujours acceptée. Vous allez à la préfecture, vous demandez l'autorisation. Quand vous l'avez sur les réseaux sociaux, vous dites « j'habite Amiens, j'ai l'autorisation pour ma ville » et comme ça, il pourra y avoir des rassemblements ailleurs.
Vous avez pris Amiens au hasard ou parce que c'est la ville du président de la République? Vous avez déjà...
J'ai pris au hasard.
Vous avez déjà demandé d'ailleurs le rendez-vous avec le président?
Non, je veux d'abord cette force-là.
D'accord.
Je veux ça pour les... pour elle et puis après, encore une fois, pour être plus forte et aussi vraiment pour... Oui, l'aider, lui aussi, qu'il soit fort, lui aussi, de ce mouvement général, que ce soit, oui, que ça lui donne. Moi, je comprends très bien, enfin, on connaît tout ça aussi, j'ai toujours besoin de ramener à ma vie, mais enfin, d'avoir des dossiers, un qui est important, on l'a mis là tout près, puis un qui est là, on a ça à faire, des choses. Et puis à un moment, bon, l'important, finalement, on a un truc qui est passé devant, etc. Lui, c'est multiplié par 10, par 100. Donc, tous les dossiers, certainement, méritent d'être en haut de la pile.
Non, mais il a fait ça, il a fait des violences faites aux femmes, une cause prioritaire du quinquennat.
Il a fait une cause,
donc,
mais
il a annoncé tel quel, c'est pas un dossier
budget
secondaire.
Le budget du secrétariat des droits des femmes a baissé de 25%.
Mais c'est la vraie question.
C'est
justement la question que je pose, c'est qu'à un moment, comment on peut annoncer que c'est une cause principale, prioritaire du quinquennat et sucrer de l'argent?
Ça va pas, parce qu'à un moment, on a signé un papier.
Je comprends que votre démarche n'est pas celle-ci. Moi, je pose la question, je constate simplement que on dit qu'il faut faire attention aux femmes et qu'il faut limiter ces violences, et à côté de ça, on donne plus d'argent.
On est là, je suis là, et nous sommes là, tous et toutes, pour lui dire, voilà, maintenant le dossier, il est en haut de la pile. Vous le remettez dessous, je le remets dessus. Vous le mettez dessous, je le mets dessus. Je ne lâcherai pas. Je suis pas énervée, je suis déterminée. C'est tout simple. Je ne lâcherai pas. On ne lâchera pas. Les gens qui signent, on ne lâchera pas. Donc on pourra faire d'autres choses ensemble si besoin est. On ne peut plus abandonner ces femmes à qui on tend la main aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis enfin en place. C'est Jacqueline Sauvage qui a déclenché ça parce que, voilà. aujourd'hui c'est là. Donc là, c'est fini. L'abandon, moi je veux leur dire, ça va aller. Ça va aller. Dans quelques années, on dira, mais c'était comme ça avant, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça a eu lieu pour d'autres choses, donc pourquoi pas sur ça. Donc nous, on est solides.
Est-ce que vous pouvez compter sur les prochaines générations, c'est vrai que c'était comme ça avant.
Est-ce que vous pouvez compter sur le soutien de François Hollande, justement? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la grâce présidentielle, qui est quand même une décision assez forte, même symbolique, qui vient remettre en question les règles de la justice.
C'est vrai que je pensais essentiellement à Emmanuel Macron pour vraiment prendre. Pour l'argent, pour prendre vraiment des dispositions.
C'est vrai que le geste a été fort, même s'il a été apparemment compliqué à obtenir. Ouais. Enfin, il a été fort. On peut au moins reconnaître ça à François Hollande. Ouais. Il a fait cette grâce présidentielle qui a permis, et la phrase qui est dite d'ailleurs dans le film, qui permet à Jacqueline Sauvage de retrouver sa place auprès des siens, c'est-à-dire là où elle doit être et pas en prison, après avoir fait quand même plusieurs années de prison. Faut pas non plus l'oublier.
Il a fait 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça.
C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est elle la coupable.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'elle était victime,
ce sont elles les coupables.
Ouais. Coupable également d'être là, Guillermo Guiz.
C'est bien lancé, ça.
C'est bien. Vas-y. Mais coupable et ta gueule, ça va bien.
J'ai lu un truc hier, c'était pas ouf. C'était pas ouf, mais je vais quand même vous l'expliquer, parce que voilà, on peut pas venir tous les jours non plus avec des infos, genre, t'as vu, on a découvert une nouvelle civilisation et tout, vous devinerez jamais où était Stommy Bugsy. Gérard Collomb, il a dévoilé son vrai âge et tout, enfin, tu vois, il y a 3 chiffres. Enfin, tu vois, un truc, parfois l'actualité, parfois c'est plus anecdotique, en fait. Je disais, par exemple, hier, dans 20 minutes, que l'Agence régionale de santé, l'ARS, mettait les gens en garde contre un nouveau virus qui s'appelle le virus du Nil occidental. Et moi aussi, j'ai revérifié dans l'article si c'était bien ARS et pas CSA qui nous mettait en garde contre le virus du Nil occidental.
Je t'emmerde.
Je me suis demandé si c'était pas le nom scientifique d'un célèbre animateur arrivé en France à dos de héron. Mais non, l'article parlait uniquement des moustiques qui transmettent ce virus. Et comme j'ai éculé mon quota de vanne sur Nagui, je vais pas aller sur le terrain de la morphologie, évidemment, et des troublantes similitudes de dimension entre les uns et les autres. Mais j'aurais pu, mais je vais pas le faire. Alors non, pas du tout. Donc en gros, 20 personnes ont été touchées par ce virus, qui est pas anodin quand même sur le plan neurologique. Ça peut mener à la méningite et à l'amour des films de Fabien Antoniente. Enfin, je dirais un truc vraiment. Il y a un avant et un après, quoi. C'est-à-dire que tu sors du cinéma, tu dis, ah, c'était trop bien, ça dépeint quand même vachement l'esprit vacances. Et puis tu vois que t'as été piqué. Et c'est pas n'importe quel moustique, c'est le virus s'est transmis par une sorte de moustique qui s'appelle le moustique Culex. Ça s'invente pas. Moi, tu me dis cette nuit, je me suis fait trop piquer par un moustique Culex. Si tu me fais ne fût-ce qu'un début de clin d'œil, il y a 100% de chance pour que je pense que c'est un message codé, quoi. 100% de chance. Vraiment, c'est comme quand Daniel Morin me dit, j'ai failli arriver en retard ce matin. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté sémantique, mais Daniel est tellement malsain de base que quand il dit ça, il y a un truc affreux qui arrive à la personne en face. Un truc affreux, quelqu'un de plus faible qui n'a pas pu se défendre. En bref. Mais voilà, donc tout ça pour dire, cette énième manifestation de la nuisance des moustiques pose une nouvelle fois la question qu'on se pose toujours à leur sujet. Est-ce qu'on serait pas mieux sans ces gens, finalement, dans nos vies? C'est vrai. J'en parlais avec une vache laitière qui me disait, ouais, mais tu sais quoi, chez les bovidés, en fait, finalement, on pense pareil que chez vous. On a tout marre, quoi. Autant chez nous, voilà, sur le véganisme et tout, et les souliers en cuir, les positions sont mitigées, chacun sa liberté, je juge pas. Mais bon, autant sur les moustiques, on est tous d'accord pour dire qu'on a plein de cul. Hein, viens, Ernesto, hijo del fuelo, viens, on les extermine. Eh bien, j'étais assez d'accord avec Marie-Paul. Alors, moi, il faut savoir que sur le plan politique.
C'est une vache, Marie-Paul, c'est la vache. Ouais.
C'est ma pote. Sur le plan politique, au niveau des moustiques, je suis très Michel Sardou. C'est-à-dire que je suis vraiment pour la peine de mort des moustiques. Je suis pour qu'on renvoie les moustiques étrangers dans leur pays. Vraiment, je suis pour qu'on ne laisse pas rentrer en boîte de nuit. En matière d'égalité, si la femme moustique gagne 30% de moins, je me dis que c'est bien fait pour sa gueule. Vraiment, moi, politiquement, en matière de moustiques, je suis vraiment à droite de la droite. Et c'est Vanna, figurez-vous. Vraiment, c'est Vanna. En fait, je les avais faites à la radio Belle il y a 3 ans. En les réécoutant, vraiment, pour préparer cette chronique, je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est que je parlais quand même vachement plus clairement à la radio Belle. Ce qui s'explique par le fait que j'étais entouré de gens qui me voulaient du bien à l'époque. Et que j'en étais encore au début de mon phénomène de paralysie progressive des gencives. Le truc. Ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus dans le doute, en fait, par rapport au moustique. Vraiment, je me dis, finalement, pourquoi un moustique n'aurait pas plus le droit ou moins le droit de vivre que moi sur cette terre? Et là encore, je crois que c'est vraiment l'effet bande originale. Quand je suis arrivé en septembre 2016, j'avais encore un peu d'estime pour moi-même. Tu m'aurais dit, choisis entre toi un moustique, j'aurais dit, moi, quoi. Depuis, vous avez souillé mon âme. J'ai vraiment des gros doutes. Mais je dirais plus jamais vraiment un moustique, sauf s'il me fait mes campings. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, bravo. La bande
régulièrement en tournée dans toute la France et fin décembre au Bataclan, on a hâte.
Ah, le moustique étant...
Ah, oui, il faut aller le voir au Bataclan, c'est quoi, c'est 28, 29 décembre.
Il faut aller le voir pour son talent et pour son sourire.
Mais ouais. Parce que,
monsieur Muriel, ça c'est vraiment adorable.
Voilà.
Vous savez qu'on a le même coiffeur.
C'est vrai, Patrice?
On fait un bisou à Patrice.
Oh, ouais. Bon, on embrasse Patrice, alors, évidemment.
On embrasse Patrice.
Eh ben, je crois que c'est
on est coiffé pareil. Faut que je parle à Patrice.
C'est ce que j'allais dire.
Il m'a sauvé, capillairement, il m'a sauvé, c'est mon sort.
Ah, j'aurais pas dit ce mot-là, moi. J'aurais pas dit ce mot-là.
Mais... Moi, il m'a refusé. Hein.
Muriel, Robin, on va évoquer en musique quelques goûts, comme par exemple, et quelques années surtout, comme en 88, vous aimiez Michael Jackson.
Et comment on fait pour pas aimer Michael Jackson?
Non, mais déjà, ce titre-là, You Rock My World.
Ouais, ouais, parce que ça me
évoque quoi?
Ça, ouais, tout.
Ça vous donne envie de danser?
Ça donne envie de faire l'amour, ça donne envie de tout, je trouve. Il est sexy, il est, ça groove, quoi, ça.
Ouais, quand vous
résumez, là.
C'est ça. Non, mais... Quand vous entendez cette musique-là.
Ouais. J'ai envie de danser. J'ai envie de, je sais pas, ça me fout la banane, quoi.
On a envie d'appeler Macron, on a envie de...
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai.
Bien, Manu.
Elle a dit faire l'amour. Hein.
Ouais, bah on peut passer un coup de fil d'abord.
Hein. on est en 88, Muriel, et c'est la période, c'est l'année de votre rencontre avec Pierre Palmade.
C'est vrai.
Vous racontez souvent dans les interviews que c'est en raison de ses chaussures, en fait, il s'est passé quelque chose avec les pompes.
Non, c'est en raison de ses chaussures,
oui,
c'est
en fait, je rencontre
Palmade grâce à ses chaussures.
Non, chaussures. Mais il y a un truc qui se passe.
Non, c'est-à-dire que bon, moi, mes parents étaient marchands de chaussures, et quand je vois que Pierre, qui a 19 ans, je baisse la tête, et il a les mêmes chaussures que mon père. C'est une sorte de loafer. Le loafer, c'est une chaussure un peu couvrante, comme ça, qui vient pas jeune du tout. Je me dis... Ce garçon, quand même, je vais regarder de plus près. Parce qu'il a l'âge, en fait. Et c'est tellement ça. Il avait l'âge de...
De ses pompes.
De ses pompes, exactement. Non, mais c'est une... Oui. Il était tellement mûr, déjà, à son âge, à 19 ans. Incroyable.
Et à quel moment vous vient l'idée, à tous les deux, d'écrire ensemble et de faire ce premier spectacle, Les Majorettes se cachent pour mourir?
Parce que je vais voir son spectacle. Il partage la scène, d'ailleurs, avec Chantal Latsou. Ils ont une demi-heure chacun. Et à la fin du spectacle, je le rencontre, il me dit « Vous êtes une de mes trois copines préférées, les deux autres étant Jacqueline Maillan et Sylvie Joly.
Pas mal.
On dîne ensemble, pourquoi vous ne faites pas un one-man show ?» Moi, le one-man show, je n'ai même pas pensé, c'est impossible. Je me demande comment les gens font pour entrer seuls sur scène. Moi, je veux tourner, je ne veux pas dire le même texte tous les soirs, je ne veux pas être toute seule sur scène. Donc, bon, et puis, disons que nous sommes, admettons que nous sommes le lundi 1er juillet, on se retrouve le mercredi 3 juillet, on dit « On le fait ». 3 et 12, 15, le 15 juillet on a un spectacle et le 18 juillet sur scène. C'est-à-dire que ça va plus vite que moi, quoi.
Fou.
On écrit un sketch par jour, on tombe de notre chaise, Pierre vient chez moi, parfois il reste dormir comme il peut et le matin on y retourne et une phrase chacun, c'est un truc qui va à une vitesse, bam, sauf l'addition, deux jours, paf, le noir, la boum, le répondeur, et c'est toujours comme ça avec Pierre, ça va à une vitesse et pouf, il apprend à ça. Donc boum, on fait des affiches, on imagine, va les coller nous-mêmes.
On
et
imagine
voilà.
Mal, est-ce que c'est chacun sort une réplique et voit si l'autre rit?
Exact.
Ou est-ce que...
Je dis, il rit. Je ris. Et s'il rit pas, pourquoi ça va vite? C'est qu'on dit pas si, mais regarde quand même cette phrase, etc. On parle pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de rire, on est déjà en train de chercher.
Et donc, pas de complaisance, il n'y a pas le rire poli pour faire plaisir à l'autre. C'est ça.
Non. Donc, ça va assez vite, parce que c'est vrai, là où on peut perdre du temps, c'est dire si, mais regarde cette phrase quand même. Là, on trace, mais on est dans une. Franchement, on est dans une sorte de
gémilité,
de transe, quoi. Ouais. Et ça va une vitesse et hop, c'est fini.
En 2007, vous écoutiez.
I fell in love.
Si ça donne envie de faire l'amour.
Oh là là. Elle est brûlante. Ça donne plus l'envie de faire l'amour qu'une blanquette de veau, en tout cas.
Personnellement aussi. Hein,
aussi. Bon, ben ça, Bennett.
En ce moment, ça peut le motiver, la blanquette de veau.
Guillermo, c'est jamais.
Guillermo qui vient de dire pas une blanquette de veau. Cet homme est différent.
Il faut expliquer à Muriel, que Guillermo essaye de. Enfin, tu tiens ou pas?
Ouais, je tiens.
De rester végétarien. Je ne fais jamais de prosélytisme, mais là, apparemment, je l'ai convaincu. Mais le mot blanquette de veau peut encore le faire craquer.
Ça le met dans les émois, pas de problème.
Non, on parle de 2007 parce que c'est aussi une rencontre avec un rôle.
Ouais, c'est Marie
Bénard.
Marie Bénard, et c'est un Emmy Award pour ce rôle-là. Ce téléfilm, encore une fois, Marie Bénard, l'empoisonneuse, qui a été accusée d'avoir assassiné 12 personnes, dont son mari et ses parents. Mais on n'a jamais vraiment réussi à prouver. Voilà,
libérée, mais pas innocentée.
Là, tout d'un coup, pardon Muriel, prendre ce rôle-là aussi sur ses épaules, ça doit être une expérience un petit peu particulière.
Oui, mais Marie Bénard, c'est plus monolithique, je dirais. Il y a vraiment, c'était plus dans les mots, puis ça se jouait. Bon, en fait, comme j'ai les commissures d'élèves parfois qui tombent un peu, donc je m'amusais à les mettre très bas, ou parfois à les enlever. Et je me disais, quand elles étaient très basses, on la voyait coupable, et quand elles étaient plus hautes, on la voyait pas coupable. Parce que qu'est-ce qu'il fallait, c'est qu'on se balade sans arrêt, pas coupable. Mais il n'y avait pas. C'était pour moi un grand rôle. Mais quand arrive Jacqueline Sauvage, alors là, on passe à autre chose. Là,
bah justement,
on va
en reparler de l'affaire Jacqueline Sauvage.
Mais on notera que j'aime bien toujours jouer des belles femmes. Jacqueline, si tu m'écoutes, franchement, je te trouve très jolie. Parce que je veux dire, des femmes différentes de moi, en tout cas. Voilà. Parce que j'avais joué avant Marilyn avec Mehdi Sharef, où là aussi, j'étais aux petits oignons.
Ouais, c'est vrai.
C'est bien, ça me fait du boulot, parce que personne veut les jouer. Moi, j'adore ça. Mais c'est pas moi.
Et c'est votre coiffeur aussi, Maître Tomasini, vous avez évidemment tout notre respect, parce que c'est vous qui avez défendu avec votre consoeur Janine Bonagiunta.
C'est tout à fait ça.
Je prononce bien. Qui avait défendu et sauvé Jacqueline Sauvage. La première question, c'est savoir comment va Madame Sauvage.
Écoutez, elle va aussi bien qu'elle le peut. Elle se reconstruit petit à petit. Elle vit toujours effectivement dans sa maison, la maison du drame. Parce qu'indépendamment du fait qu'effectivement elle y a tué son mari, elle a aussi élevé ses enfants dans cette maison. Donc il y a aussi des souvenirs heureux.
Mais chaque centimètre carré doit lui rappeler des horreurs.
Il y a aussi des souvenirs heureux. C'est tout le paradoxe de ces vies de femmes. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont du mal à partir.
Parce que tout pardonne d'une histoire d'amour.
Bien sûr.
C'était plus fort qu'elle. Elle l'aimait, elle était dingue de lui.
Mais absolument, vous savez, Jacqueline Sauvage, elle est comme toutes ces femmes, nos clientes. C'est une histoire d'amour à la base. Ce sont des femmes qui croient au prince charmant. Elle le trouve magnifique quand elle le rencontre, mais à l'inverse des contes de fées, finalement, ce n'est pas le prince charmant qu'elle croyait, il va se révéler être un véritable bourreau, un véritable monstre.
Ce que j'ai découvert dans le film, c'est que ce sont ces filles qui vous démarchent, qui vous demandent de venir vous occuper du deuxième procès, parce que vous aviez une notoriété d'avoir
défendu
un cas et d'avoir déjà sauvé
C'était l'affaire d'Alexandra Lange. Qui, elle, avait été acquittée du meurtre de son mari violent. Et en fait, ça s'est passé en deux temps. Dans un premier temps, ce sont vos confrères journalistes qui nous avaient à l'époque demandé notre position, notre avis sur l'affaire de Jacqueline Sauvage, qui venait d'être condamnée en première instance à 10 années de prison. Et donc, il nous avait questionné sur le fait de savoir qu'est-ce qu'on en pensait, puisque ce cas était très proche de celui d'Alexandra Lange. Et nous étions intervenus donc sur les médias en disant que, sans connaître le dossier, cette peine nous paraissait extrêmement sévère. Par la suite, nous avons effectivement écrit à Jacqueline, en détention, pour lui dire qu'on était avec elle, qu'on connaissait sa souffrance. Et à partir de là, c'est vrai que elle en a parlé avec ses filles et que c'est Sylvie, en l'occurrence, qui nous a, entre guillemets, démarché pour qu'on prenne cette affaire et défende
alors,
Jacqueline.
On pourrait penser que des avocates et deux femmes défendent une femme pour la cause féminine. On se dit, bah, elles sont bien placées, elles savent de quoi elles parlent, mais on voit bien que c'est pas un problème sexué, parce que lorsque la juge, et les deux fois d'ailleurs, c'est une femme qui est, oui, qui est juge, les propos, les questions, l'absence d'empathie totale, c'est pas une affaire de sexe, c'est pas une affaire de position, c'est une affaire vraiment
je
cérébrale.
Je dirais même plus, mais oui. Nagui, souvent, les présidents de femmes sont encore plus durs
odieuse.
Que les
dur,
présidents
c'est, elle est odieuse.
Hommes. Mais vous savez, c'est édulcoré, comme le disait Muriel dans le film.
Quand il y a une phrase, pardon, quand il y a la phrase, je ne dirai pas qui, mais quelqu'un à la barre dit « j'ai été violée » et que la présidente, donc une femme, réponde à ça. Qu'appelez-vous, qu'entendez-vous par violer ?
Tout à fait, mais ça non, s'est mais exactement
on...
passé comme
mais
ça.
On a envie de hurler.
Et de la même manière, les filles, lorsqu'elles ont témoigné pour Jacqueline, la présidente leur a dit, en les pointant du doigt, « Voyez où elle en est, votre mère, à cause de vous. »
Mais c'est dingue.
Parce qu'elle n'avait pas parlé, elle non plus. Donc,
comment on explique un tel comportement ?
Comment on reste calme quand on est avocate, surtout quand il y a
non, mais parce qu'après, il y a une déférence logique, il y a un respect logique dans l'organisation de la justice. À un moment, voilà, vous êtes avocate, vous êtes face à cette juge, mais comment on, oui, est-ce qu'on peut porter des recours ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans ce cas-là ?
La difficulté, c'est que la justice est humaine. C'est-à-dire qu'il y a des tas de critères pour arriver à un verdict. Il y a aussi la personnalité des magistrats, de l'avocat général, des jurés. Donc effectivement, si vous avez une présidente qui a sa propre vie, son propre ressenti, logiquement, elle va gérer son audience telle qu'elle est elle-même. Après, très heureusement, on n'a pas toujours ce type de magistrat en face de nous. Mais c'est un procès qui a été extrêmement difficile, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan humain.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que nous sommes aussi des femmes, nous avons une vie de famille. On a été bouleversés par cette affaire. Sur le plan professionnel, il faut savoir qu'on a subi aussi énormément de dénigrements, notamment du monde judiciaire, c'est-à-dire de nos confrères avocats, des magistrats, qui ne comprenaient pas comment on pouvait, entre guillemets, plaider l'implaidable, puisqu'il y avait un texte de loi très précis, et que nous, ce que nous avons fait, tout
ce
simplement...
Ce texte de loi, disons qu'il n'y a, alors, pas, qu'il n'y a pas de légitime défense.
Ce texte de loi, on va être très clair, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce qu'il dit ? C'est le texte relatif à la légitime défense qui existe aujourd'hui en France.
Il faut que ce
France.
Soit proportionnel.
Il faut un acte d'attaque, première chose. Ça, nous étions dans ce cas-là, puisque Jacqueline venait d'être agressée.
Et vous l'avez
par
prouvé avec les somnifères et avec le délai entre les coups qu'elle a reçus alors, et les coups qu'elle a donnés.
Alors, Nagui, acte d'attaque, acte de défense dans le même temps. C'est là où on a démontré, effectivement, que, alors qu'elle avait cru ne dormir que 2 heures, elle avait bien dormi 4 heures, et que donc, lorsque Norbert l'a attaquée, il était 6h30, et lorsqu'elle l'a tuée, il était aux environs de 7 heures. C'est-à-dire qu'il s'est passé, il y a l'attaque, toute la durée de l'attaque, bien 20 minutes, et il n'y a eu que quelques minutes entre l'acte d'attaque et l'acte de défense. Donc on était bien, dans le cadre de la loi, dans le même temps. La loi ne dit pas en même temps. Mmh. Donc, effectivement, on a pu démontrer ça avec les analyses de sang et l'expertise. Et s'agissant du critère de proportionnalité, là, nous avons essayé d'expliquer aux jurés qu'il fallait qu'ils repoussent les limites de cette définition parce qu'il n'y a pas de proportionnalité possible dans un rapport.
Entre 47 ans,
absolument.
De coups et
Vous voyez, Nagui, ouais. Je vous ai convaincu.
Mais totalement convaincu. Et d'ailleurs, voilà. si vous en avez le temps, pouvez-vous rester avec nous pour qu'on continue d'en parler dans la
pas
deuxième
de
partie de cette émission, parce que je voudrais évidemment qu'on parle du film, mais également de la loi que Muriel Robin avec et nous tous, avec
vous,
cette pétition,
vous, nous.
Essayons de changer, parce que ça nous concerne tous, et nos enfants et nos petits-enfants.
Nagui a besoin d'un avocat en ce moment.
Et... Non, j'ai une femme très bien aussi comme avocate. Tanguy Pastureau sera également dans la deuxième partie. Tanguy, nous avons un nouveau champion en France.
Oui, c'est le président Macron, notre kit survitaminé qui est en baisse de régime. Heureusement, les Américains nous l'ont repris et ont changé les piles. À New York, il est devenu champion de la Terre. Hein, ce qui ne signifie pas qu'à silence sa pousse, il peut prendre tout le monde sur la pousse des jacinthes, mais qu'il est l'espoir de l'écologie, Nagui.
Très bien, on va en parler dans la deuxième partie. On a plein de choses à suivre après les infos de midi. Soyez bienvenue avec Leïla Kadoboudé.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour.
Albert Albu.
Bonjour.
Frédéric Sigrist. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Guillaume Auguiz. Nous avons Maître Thomas Gilly qui est avec nous et notre invité Muriel Robin. Nous allons reparler de ce film, Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. Ça sera lundi 1er octobre sur TF1 à 21h. On vous encourage, on a eu la chance de le voir en avant-première, on vous encourage à le voir. Vous sortirez pas indemne, hein, je vous préviens tout de suite, hein, de ce film, qui que vous soyez, garçon, fille, homme, femme, parent, enfant, peu importe. Mais si vous avez deux oreilles, un cerveau et un cœur, il y a forcément un moment où vous allez vous mettre à pleurer. Mais on se met à pleurer par sentiment d'injustice et puis parce qu'on est concerné et parce qu'on se dit ça peut arriver en effet à la personne qui habite à côté, au-dessus de chez moi ou dans ma famille, ou ça peut arriver à quelqu'un que je croise tous les jours et qui ne me dit rien, parce que c'est ça qui rend totalement dingue, c'est cette durée de 47 ans de coups d'humiliation psychologique, sexuelle, économique aussi, parce qu'il il la tient avec la carte bleue et les cordons de la bourse, en fait, voilà, et de violences perpétrées sur les enfants. C'est un dossier qui est dingue et qui malheureusement n'est qu'un exemple. Ça donne un film, c'est un très beau film, mais c'est qu'un exemple. Et on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Champion de la Terre, c'est le président Macron.
Oui, en début de semaine, Macron, il était tout piteux, tout nul, sondage en berne, sexe à pile moindre, parce qu'on entre dans l'automne, donc on est moins excité. Voir son partenaire siffler une tisane en leggings et vieux pulls, ça incite moins à la copulation qu'au suicide. Macron, il est arrivé à New York, Trump, son Donald, qu'il a papouillé pendant un an, l'autre venait juste de finir de s'essuyer, lui a à peine parlé. Macron a essayé de le RT sur Twitter en se disant, c'est comme ça qu'il communique, rien. L'ambiance était la même qu'à un dîner où on aurait mis côte à côte Laurent Geoffrin et Vauquier. Mais l'avantage des Américains, c'est qu'ils rendraient même glamour Philippe Poutou. Ils prennent un mec en bout de course, mettent sa tronche sur CBS entre deux pubs pour des bouts de bœuf, le font interviewer par Oprah Winfrey, c'est comme Apolline de Malherbe mais en connu, et nous, de l'autre côté de la mer, cette poubelle de plastique dans laquelle survivent les quatre goélands qui ont le même foie que Depardieu, on rêve à nouveau. Macron, mercredi soir, est ainsi devenu champion de la Terre. Les États-Unis, c'est ça, ils transforment des gens pas top en super-héros. Vous leur donnez Jacques Cheminade, et ils lui enfile une cape et l'autre se met à voler en hurlant à moi la planète Mars, enfin ! Ce sont les Nations Unies qui ont honoré Macron du titre de champion de la Terre. Et là, on se dit, Boudiou, c'est pas vrai. J'ai du mal à entendre. As-tu changé les piles de la zapette, ma grosse loute ? Ou alors c'est mon tympan qui part en yeux-cou ? Car nous, on connaît la réalité. On sait que Nicolas Hulot a fini roulé en boule sous son bureau en sucetant des Xanax parce qu'il avait zéro marge de manœuvre. La planète Macron s'en tape, tel Robert Plant de Led Zepp des maladies vénériennes en 1971. Lui, qu'il aime, c'est le business, les start-up à la con et les bac plus 7 qui disent ok pour un job de plongeur à Hippopotamus et qui, quand ils cassent une assiette, disent au manager, du coup ce soir je bosse gratos, ça va me booster pour progresser. À part si demain le lichen prend une valeur dingue parce que Mylène Farmer dans un clip se sera roulée dedans toute nue en bouffant une chauve-souris, ce qui vient de la nature, il s'en fout. Parce qu'en 2017, il a dit Make Our Planet machin, les ricains ont l'impression que Macron c'est un zadis qui se nourrit des champignons qui lui poussent dans le pubis. Mais non, non. Il a dit ça comme il aurait dit à Nemo, il est beau le chien-chien à son manu, ou à Castaner, il est beau le cri-cri à son manu, ou à Benalla, dis-moi Alex, c'est ton flingue que t'as dans la poche ou bien t'es chaud? À l'écologie, il a mis François de Rugy, l'écolo tout mou. Hein, lui, s'il installe un ficus dans son bureau, il dit, voilà, la planète est sauvée. L'an dernier, les émissions de gaz à effet de serre ont encore augmenté en France, 30 ans que les scientifiques braillent, et que nous, on continue à aller acheter notre baguette en Ford Fiesta, parce qu'on s'est choisi un président à notre image. Si de Fursac refilait des des costumes gratos, on aurait voté Fillon.
Bon, le président Macron va tout de même fermer les dernières centrales à charbon.
Oui, mais en même temps, la France finance une mine de charbon en Allemagne. Donc, et là, ils sont en train d'agrandir la mine. Si dans Blanche-Neige, ils avaient fait ça, on pouvait faire bosser 700 nains. Hein, dont Passepartout, parce que chaque année, ils se tapent 10 mois de chômage avant de revoir en juillet Jonathan bouffer des tripes de tortue. Et pour agrandir cette mine à Ambach, ils rasent une forêt millénaire, ce qui est terrible pour la faune et la pratique de l'exhibitionnisme. S'il n'y a plus de forêt, ils vont se rabattre sur le parking du Castorama. Et sans buisson, tout de suite, il y aura moins de mystère. Le buisson, c'est le slip de l'exhibitionniste. Et qui finance l'extension de la mine, Nagui? Bingo, la Caisse des dépôts. Nous, hein, on va dans le mur, mais on va prendre 0,1 point de croissance. Ça valait le coup. Le jour de l'apocalypse, on aura peut-être un PIB record. Et nos enfants diront, mais papa, on s'en foutait, en fait. Concentre-toi sur l'essentiel, papa, ils ajouteront, parce que là, tu pars en vrille, vieux. Donc, Macron, champion de la Terre, ok, mais maintenant, il va falloir le mériter, le titre. On veut un vrai champion de l'écologie. J'espère que Brigitte va lui piquer les clés de l'air Bogoswan et qu'ils vont rentrer en kayak. Un champion de la Terre, ça fait zéro CO2. Là, si le clébard a des gaz, il faut le refiler à Merkel. Elle s'en fout, son pays, c'est une poubelle. Il brûle du charbon comme il y a 200 ans quand Gérard Collomb était gamin. Un champion de la Terre, ça interdit le glyphosate. On attend quoi? Que les mecs de l'amour et dans le pré aient le corps rongé par les maladies dues aux pesticides? Ils ont déjà du mal à emballer avec la patate. Mais Karine Le Marchand va renoncer, elle va dire filez-moi chasseur d'appart. Un champion de la Terre, ça réduit le plastique. Tous les plastiques, les contenants, les emballages, les visages des chanteuses. Et pour ça, on arrête avec le pétrole. On arrête, plus besoin de sucer la pomme des Saoudiens. Ciao. On va peut-être même parler avec des présidents élus par des gens. Attention au syndrome Obama, ce grand con adulé par les bobos à qui on a remis le Nobel de la paix parce qu'il faisait des bisous à Beyoncé et qui un an plus tard envoyait des drones défoncer le Pakistan, la Somalie et le Yémen. Non, notre champion de la Terre, faut pas qu'il nous déçoive. Parce que là, c'est pas trois Gaulois qui râlent par principe qui vont être frustrés. C'est l'ensemble des terriens. S'ils se mettent à être pas contents tous en même temps, ce sera autre chose que Philippe Martinez de la CGT qui défile avec deux merguez dans le pif suivi par des mecs bourrés. Monsieur Macron, vous êtes notre champion, donc sauvez la Terre. Bonne chance.
Merci David Bassiot. La bande originale. Midi sur France Inter. Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, ça sera lundi sur TF1 à 21h avec Muriel Robin, Olivier Marchal, Armel Deutsch, Samantha Régnier, Laura Sépul, Erika Sainte, Clément Manuel, Yves Régnier qui réalise et qui joue le rôle du directeur de la prison et qui fait voix off aussi à la fin du film, et Alix Poisson, brillante avocate. C'est votre personnage qui est joué par Alix Poisson. Maître Tomasini, vous avez vu ce film, est-ce que vous avez reconnu ce que vous avez vécu ou vous vous dites, bon, allez, c'est une fiction. Évidemment, c'est résumé en une heure et demie, mais est-ce que c'est fidèle ?
Non, non, j'oserais cette expression. Ce film
soyez
rend...
Soyez folle, osez.
Donc, allez, ce film rend grâce à Jacqueline Sauvage, à son histoire, à la vérité de son histoire et à notre combat, à mon associé et moi-même. Vous voyez, je suis émue quand je le dis et j'étais bouleversée quand j'ai vu ce film. Je l'ai vu deux fois. Un double choc. Choc parce que les scènes sont d'une vérité. Elles sont crédibles, non seulement crédibles en ce qui concerne Jacqueline, mais...
Vous parlez des scènes de flashback quand on voit ce qu'elle a subi au fur et à mesure que le procès avance.
Toutes les scènes de violence.
D'accord.
Mais moi, si vous voulez, je les ai vécues au centuple parce que j'ai encore des dossiers extrêmement dur, extrêmement proche de cette histoire, qui me sont revenus au moment où j'ai vu ce film. Et je pensais notamment à une affaire qui, justement, défraye actuellement la chronique, et l'affaire Valérie Bacot. Je suis émue d'en parler parce que hier, on a réussi à faire sortir Valérie de prison. Et j'ose croire que ce que fait Muriel actuellement, et ce que vous faites aussi tous, c'est-à-dire de relayer la parole de ces femmes, a contribué à faire sortir cette femme de 37 ans qui a vécu un calvaire pendant des dizaines d'années, qui a été en fait violée par son beau-père à l'âge de 12 ans, lequel a été condamné. Sa mère a obligé cette jeune fille qui avait été violée à aller voir son beau-père au parloir en détention. Ce type est ressorti lorsqu'elle avait 16 ans, 4 ans après. Il l'a reviolée. Et comme elle ne connaissait que lui comme référent masculin, il a réussi à l'épouser, à lui faire 4 enfants, et ensuite il l'a prostituée. Et donc cette femme, un soir, effectivement, a tué son mari. Parce que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est qu'il a commencé aussi à vouloir s'attaquer à sa propre fille. Et donc cette femme a été enfermée, mise en détention, puisqu'il y a eu crime. Mais nous avons réussi à la faire sortir de sa détention provisoire, sous contrôle judiciaire.
Chaque fois, ça a été pour protéger leurs enfants.
Oui, c'est le déclic fondamental.
Qu'elles sont passées à l'acte.
Absolument. Absolument, parce qu'elles estiment que pour elles, c'est fini quelque part. C'est trop tard.
Je dirais, oui, c'est même ce qu'elles subissent, c'est pas grave.
C'est pas grave.
C'est pas grave ce qu'elles
subissent. Elles en ont tellement, tellement vécu.
Mais ne lève pas la main sur ma fille ou sur mon fils.
Ouais. Là, c'est plus possible. Moi, d'accord, mais pas mes enfants.
Muriel parlait tout à l'heure de cette pétition et on encourage encore une fois nos auditrices et nos auditeurs à aller sur change.org/sauvons-les parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont concernées. Est-ce que la loi peut changer? Parce que c'est évoqué aussi dans le film sur la légitime défense. Est-ce qu'il est possible techniquement que la loi change et qu'on prenne en compte des années de maltraitance comme étant un acte de...
Absolument. Puisque la France est quand même le pays où la définition de la légitime défense est une des plus restrictives. Nous avons, lorsque nous avons créé notre cabinet, tout de suite regardé du côté du Canada, qui est extrêmement en avance sur le traitement des violences conjugales. Au Canada, il s'est passé exactement ce qui est en train de se passer avec l'affaire Sauvage. Pour eux, c'était l'affaire Lavallée. Même histoire. Dans cette affaire, il y avait un expert, et c'est ce dont on manque en France, un expert qualifié, spécialisé en psychotrauma, qui va mettre en exergue, révéler ce qu'ils ont appelé le syndrome de femme battue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, ces femmes qui ont vécu des violences répétées pendant plusieurs années n'ont plus la faculté, comme vous et moi, de prendre une décision raisonnable. La seule décision raisonnable pour elles, c'est de supprimer leur conjoint, de supprimer ce mal absolu pour pouvoir survivre. Et donc cet expert a expliqué ce qui se passait dans la tête de ces femmes. À partir de là, dans l'arrêt Lavallée, on a pris en compte ce psychotraumatisme et cette femme va être acquittée. C'est-à-dire que l'état du droit à l'époque, au Canada, était le même que le nôtre. Ça a été balayé. Et la présidente de la Cour a même dit, exceptionnelle, elle a même dit, comment voulez-vous qu'au moment où cette femme tire, comment voulez-vous qu'elle pense à ce que ça soit concomitant et proportionnel? Sa vie est en danger, elle l'a toujours été. Donc, état de danger de mort permanent égale légitime défense permanente. À partir de là, les Canadiens ont quand même, 20 ans plus tard, en 2012, modifié leur code criminel et donc défini une légitime défense, prenant en compte des critères précis, à savoir que pour juger une femme battue, il faut tenir compte des rapports de violence antérieure entre les protagonistes, de l'âge, du sexe, de la taille, de la nature de la force. Donc ce sont des critères qui n'existent pas, nous, dans notre loi, et qui doivent aujourd'hui être pris en compte. Je voudrais quand même rajouter...
On pourrait changer cette loi.
On peut complètement, non seulement changer cette loi, mais il faut que tout le monde sache que cette définition de la légitime défense a déjà évolué. Parce qu'avant 1994, il n'y avait pas du tout ces critères de proportionnalité et de concomitance. Ce qui veut dire que la loi... elle évolue aussi en fonction de la société et c'est une volonté politique. Et c'est pour ça, effectivement, qu'Emmanuel Macron nous serait d'un grand secours.
Alors justement, avant d'arriver à la loi, ouais. Il y a aussi tout ce qu'on peut mettre en place pour que les femmes ne subissent pas des enfers comme ça pendant des décennies.
Bon, Muriel l'a évoqué, nous on a toujours prôné une spécialisation des tribunaux spécialisés violence conjugale, parce qu'aujourd'hui tout ça est mis dans le même panier que finalement les séparations, les divorces. Refus de la médiation pénale, c'est encore en vigueur dans les tribunaux, hein, j'en sors la semaine dernière, épouvantable. Bah, écoutez, vous avez qu'à vous rapprocher, quand même, vous avez des enfants, il va falloir penser à réguler tout ça, alors que bon, on a 20... Ouais. Voilà, bon, on avait 20 certificats médicaux au dossier. Et j'en passe, une ordonnance de protection. On a ce fameux outil, normalement, c'est pour que...
Pardon, ouais, est-ce que la solution n'est pas justement de libérer aussi la parole, de rassurer ceux...
Oui, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire en sorte que la parole se libère. Mais après, concrètement, une fois qu'on a sensibilisé la société, il faut qu'on ait des possibilités, des outils juridiques concrets pour faire avancer. Donc, spécialisation des tribunaux, radicalisation des sanctions contre les auteurs, dommages et intérêts qui veulent dire quelque chose aux victimes.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si un homme frappe sa femme? Quelle est la condamnation traditionnelle? Quelle est la fourchette? Comment ça se passe?
Bon, c'est, écoutez,
je porte plainte, alors, j'ai été frappée, qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est parfois renvoyé devant les tribunaux correctionnels. Ouais. Comment c'est apprécié? Là, je sors aussi récemment d'une audience correctionnelle. Je vais vous donner un exemple. On a plus de 8 jours d'ITT et finalement, il devrait y avoir un mandat de dépôt à la barre. Eh bien non. Il y a une peine, un aménagement de peine avec une contrainte pénale. Tout est comme ça, des dommages et intérêts insignifiants, 2000 euros donc, de dommages et intérêts.
C'est indécent. Voilà.
Comment voulez-vous inciter les femmes à se battre et à se révolter contre les violences?
En leur disant qu'elles ne sont pas seules et que plus elles parleront, plus les choses changeront.
Oui, mais quand vous voyez, et c'est le cas de toutes mes clientes, quand vous voyez des condamnations qui sont minimes, des indemnisations qui sont qui n'existent pas, comment voulez-vous? Parce que c'est très dur.
Comment voulez-vous, dans un premier temps, c'est signer cette pétition, deuxième temps, rendez-vous le 6 octobre à 14h.
Justice de Paris, boulevard du Palais.
Voilà, et si vous voulez le faire un peu partout en France, faites-le.
Dépendre financièrement d'un homme dans la vie, au maximum, si c'est possible.
Oui, absolument.
Et espérer que Muriel obtienne le rendez-vous avec le président Macron pour faire changer la loi.
Mais appelons-le, là, il répond bien à Nuna, il veut bien nous répondre.
C'est vrai, pour les trucs importants.
Je sais pas, on n'a pas le numéro. T'as le numéro, toi? Je crois que c'est la première fois en 5 ans que notre invité ne parle pas du tout dans cette dernière demi-heure et que l'on consacre tout.
C'est tellement essentiel, important, ce que Nathalie dit, c'est très important.
À l'avocate, oui, absolument, qui est présente, je le rappelle. C'est Alix Poisson qui joue
sublimement votre
rôle.
Et très justement.
Et moi, d'ailleurs, je ne viens que me rajouter un travail déjà énorme qui a été fait par Nathalie, par son associé Janine, par Eva Darlan, par aussi... Il y a déjà eu quelque chose qui a grondé comme ça au moment de l'affaire. Et donc, je m'appuie dessus. Et d'autres, c'est une force ensemble, hein, évidemment.
Le dépôt de bilan de cette semaine par Frédéric Sigrist, c'est maintenant.
Bonjour à tous, bonjour Muriel. Alors là, je rappelle rapidement quel est mon rôle autour de cette table, parce que je débarque un petit peu entre le fromage et le dessert. En plus, vu l'ambiance, on se dit « Allez, fais nourrir !» C'est vrai, ce que Muriel, vous deviez vous dire depuis le début de l'émission, mais dis donc, c'est qui lui? Les agents de sécurité à France Inter, ils sont quand même drôlement bien installés. Non, en fait, j'ai une fonction bien précise. Alors, outre rire très fort aux blagues de mes camarades afin de couvrir à l'antenne le silence pudique du public, je suis également là pour faire le débrief de la semaine. Alors, on va pas se mentir, c'est pas une chronique indispensable. On va pas se mentir, je vais rien dire qui, aux yeux de cette direction, ne puisse être remplacé par une chanson chiante de Christine and the Queen, par exemple. Mais disons que j'incarne à moi tout seul la culpabilité socialo-bolchevique de Radio France vis-à-vis de la non-représentativité des Noirs hétérosexuels sur cette antenne. Alors vous allez me dire, mais Frédéric, tu n'es pas noir. Eh oui, c'est dire s'il reste du chemin à parcourir. Le dépôt de bilan, c'est donc un moment où on se dit tout, où on parle sans tabou de ce qui a marché ou n'a pas marché durant cette semaine. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, je n'ai que des compliments à vous faire, Nagui.
Ah,
ah oui, c'était une série d'émissions.
Ça n'a pas duré, ça.
Non, c'était une série d'émissions où vous avez su montrer ce qui nous différenciait vraiment de toutes ces bandes qui pullulent à la radio, la bande à Ruquier, la bande à Charline. Et celui qui le résume le mieux, ce petit je ne sais quoi qu'on a en plus, c'est encore Daniel Morin, jalousant l'esprit de la bande de Groland.
Bah, vous avez de la chance parce que là, autour de la table, tous crevés, moi, ça ne tirera pas. J'aimerais connaître ce sentiment.
Voilà ce qui fait de notre équipe une singularité radiophonique, c'est qu'on peut absolument pas se blairer. Voilà. Alors soyez rassurés, Nagui, après cette semaine, tout le monde sait qu'on se crache à la gueule pour se dire bonjour le matin, même Tom Villa. Hein.
D'accord, la bande n'existe plus. On va faire 4 équipes de 1, il n'y a pas de souci.
Non, mais vous vous rendez compte, Nagui, Tom est choqué.
Il est jaloux.
Tom, il est choqué qu'il travaille avec Thierry Ardisson. Logiquement, au niveau ambiance de merde au travail, Tom sur C8, il pourrait écrire une thèse en putasserie. Je veux dire, et ben même entraîné par les meilleurs, il est obligé de s'incliner devant nous. Ce que les autres appellent des clashs, nous on appelle ça un jeudi. Booba et Carice, c'est Leïla et Daniel qui prennent l'ascenseur ensemble. Mais au bout d'un moment, le souci, c'est que cette sincérité, cette transparence, ce besoin de vérité, eh bien les invités aussi, ils le ressentent. Et c'est Céline Salette qui a crevé l'abcès après 5 ans d'émission et de soumission. Enfin, quelqu'un a osé vous dire ce que tout invité a invariablement envie de répondre suite à une de vos questions.
Ouais, pas compris.
Elle a pas compris. Alléluia, mes frères. Alléluia, mes sœurs. Oui, enfin, la vérité remonte du puits où elle était tombée. Les invités n'entravent rien à vos questions et pourtant, elles sont claires.
Cette idée de dire, je sais que comme dans toute démocratie, on se rend compte, mais c'est peut-être que ma perception,
c'est
que
un montage.
Lutter contre le grand capital porté par le peuple, c'est-à-dire que les idées sont échangées, les clans s'opposent, ce qui fait notre liberté. Quelles sont les valeurs?
Ah, les valeurs. Une légende dit que si tu passes une question de Nagui à l'envers, tu invoques Satan. Alors bien sûr, lorsque le vent du changement souffle, le seau s'abrite derrière une passoire. Mais trop tard, les vannes se sont ouvertes et enfin la parole s'est libérée, notamment celle de Mélanie Thierry.
J'ai pas compris.
Eh oui, personne ne comprend rien. Mais ne vous vexez pas, Nagui, il faut accepter ces aveux d'incompréhension. Ils sont la pierre sur laquelle nous bâtirons nos émissions de demain. À la star de Leïla qui, toujours telle l'aiguille qui pointe vers le nord, nous montre l'exemple à suivre. Leïla, notre Miss Culture, qui est finalement bien plus Miss que Culture.
Ouais, Jean-Paul, je savais pas que Mara, c'était Jean-Paul.
Mais elle savait pas. La vérité, Nagui, la vérité, c'est une MST lancée dans le gangbang de la vie. À la fin, elle finit par toucher tout le monde. Et quand on voit comment vous accueillez le public, on comprend pourquoi Michel Simès a pris votre place d'animateur préféré des Français.
En fait, vous êtes moche et elle veut pas vous voir.
Alors, certes, la vérité, comme Alexandre Benalla, pendant ses jours de congé, elle peut faire mal. Mais en même temps, public, peut-être devrais-tu reconnaître que tu n'es pas si beau. Et puis une chose est sûre, c'est que lorsqu'on s'abreuve à la fontaine de la vérité, on a vite envie de faire pipi aux toilettes de la révélation. C'est le cas de Mélanie Thierry, toujours, qui nous a dévoilé les secrets de la course aux Oscars.
Je vais vraiment m'asseoir sur les genoux de tous les petits vieux des maisons de retraite de Los Angeles.
Et c'est aussi le cas de Gustave Kervern qui nous a révélé qui dirigeait vraiment la France.
Le lobby juif et le lobby homosexuel envient le lobby grolandais.
Tout en délivrant un message de santé publique plutôt chaleureux.
La bière, c'est pas de l'alcool. Hein.
Donc voilà, Nagui, ce qu'on a peut-être perdu en une interview de fond ou en lisibilité cette semaine, eh bien, on l'a gagné en authenticité. Et plus tard, quand on me demandera l'origine du succès de la bande originale, je dirai sûrement la même chose que Céline Salette.
Ouais, pas compris.
Ouais, c'est ça. Merci. La bande originale avec Nagui. Merci mille fois d'être venu, Muriel Robin, en tout cas.
C'est moi qui vous remercie.
Et de porter si brillamment et justement et avec beaucoup d'émotion, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Vous n'avez pas beaucoup de textes, mais vous avez tellement à jouer et à bien interpréter. C'est bouleversant. C'est essentiel que vous voyez ce film. C'est d'utilité publique.
Vraiment.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera lundi à 21h sur TF1 avec Olivier Marchal, Alix Poisson, Armel Deutsch, Samantha Régnier, Laura Sépul, Eric Hassinthe, Clément Manuel et Yves Régnier. Merci également à vous, Maître Tomasini, d'être venu à ce micro et de continuer de vous battre pour que la loi change. Et je rappelle, change.org/sauvons-les pour signer cette pétition. Il faut aller au-delà des 100 000, c'est déjà fait, mais 150 000 et plus pour que les lois changent, oui.
Et pour que les lois, pour qu'on soit plus fortes et plus forts ensemble et pour faire bouger, c'est possible. On a des exemples, Maître Tomasini en a parlé. En Espagne, comme j'en parlais tout à l'heure, ça peut vraiment être autrement. Et n'ayons plus honte de cette indécence à l'égard de ces femmes.
Merci pour ce que vous faites, Muriel Robin. Bravo. Merci mille fois. Merci. Lundi, nous recevrons Laetitia Deutsch et Romain Duris. Ce sujet est carré de campagne de Philippe Bertrand.
Merci Nagui, merci les amis, à lundi.